dans 1 Samuel 20. Et garde un petit peu de place en haut de ta page si tu prends des notes, parce qu'il y aura un titre, mais il ne va pas être là donné tout de suite. J'aimerais le garder pour un peu un effet « waouh » tout à l'heure. Donc le titre, vous l'aurez tout à l'heure. Mais si vous êtes dans 1 Samuel 20, c'est une histoire. Ce matin, en fait, plus qu'un message, vraiment, ça va être une histoire. Vous allez vivre le truc avec moi. Et c'est plus un conte, une histoire, une réelle histoire qui s'est passée il y a très longtemps. Et c'est l'histoire du roi David. Et ce qu'on va apprendre ce matin, à travers cette histoire, c'est ça. On va apprendre que les voies de Dieu, elles sont moins attrayantes et elles semblent plus inefficaces lorsqu'on est en colère, lorsqu'on a un sentiment de solitude ou lorsqu'on est dans la crainte, effrayé, apeuré, mettez le mot que vous voulez. Et quand on est dans ces positions-là, ben, on se pose des questions vis-à-vis de est-ce que je dois faire ce que Dieu me demande ou est-ce qu'il ne vaut pas mieux que je fasse selon ce que moi j'ai envie de faire à l'instinct. Et c'est vrai que les choses de Dieu, elles semblent moins inefficaces dans ces moments-là parce qu'on a envie de prendre les choses en main. Et ce matin, on va voir cette histoire. On va voir une histoire de quelqu'un qui a fait ça et on va voir les conséquences que ça a portées. Et en fait, les trois conditions, la colère, le sentiment d'abandon, de rejet, de solitude, le fait d'être apeuré, ces trois conditions-là, ce matin, on va comprendre qu'elles ont la capacité de mettre à mal toutes les valeurs morales, toutes les valeurs éthiques, même des personnes qui sont les plus dévouées, les plus attachées à Christ. Et c'est pour ça que c'est important qu'on arrive ce matin, à la fin de cette histoire, de comprendre quand est-ce qu'on est en colère, quand est-ce qu'on se sent seul, quand est-ce qu'on est effrayé, afin qu'on puisse discerner et mettre en place le bon remède. Vous êtes avec moi jusque-là? Super. Et par exemple, les morales ou les valeurs qu'on a, et puis quand on est dans la colère ou dans la crainte ou dans le sentiment d'abandon qui change, c'est « Ah, non, jamais je mettrai un coup en réponse à un coup que je me prends. » Mais quand on est dans la crainte, notre attitude peut changer. Ou « Jamais je ne dilapiderai mon argent dans les jeux. » Mais quand on se sent abandonné, esselé, on se dit « À quoi bon la vie ?» Et puis on peut être tenté d'aller dans cette direction-là. Ou jamais je ne critiquerai les autorités de mon pays. Hein, petit message personnel. Je ne sais pas pour Macron, mais j'ai horreur qu'on critique les autorités du pays. C'est quelque chose qui me tient fort à cœur. Et puis un jour, il y a une loi qui sort sur un domaine qui nous concerne. Et puis là, on commence à se dire, bon, je l'aimais bien jusque-là, mais là, quand même, il commence à me chatouiller. Cette histoire-là, elle me touche personnellement et on commence à critiquer. Parce que, en fait, la loi, elle nous cause un côté qui nous amène à être dans la crainte ou dans ce genre de situation. Vous comprenez ce que je veux dire? Être en colère, esselé, abandonné, effrayé, ça nous fait mettre de côté nos valeurs de vie, les valeurs de notre foi. Et ça peut produire des conséquences très, très graves, comme on est sur le point de voir. Et en réalité, c'est certainement, si vous regardez dans votre passé ou si vous allez regarder dans votre futur, une de ces trois choses-là, c'est certainement la base de votre plus grand regret. Parce qu'à un moment donné, vous étiez en colère, parce qu'à un moment donné, vous étiez dans la crainte, parce qu'à un moment donné, vous vous sentiez abandonné, vous avez pris une décision, vous avez fait un choix pour votre vie et aujourd'hui, vous vous dites « Pourquoi j'ai fait ce choix ?» Pourquoi j'ai fait ça? Et aujourd'hui, la réalité, c'est que probablement un de vos plus grands regrets, si je demandais à chacun de vous de venir là, de me raconter quel est ton plus grand regret de vie, et vous me raconteriez toute l'histoire, vous nous raconteriez toute l'histoire, on verrait que c'est basé sur une de ces choses-là. Et la raison pour laquelle on est touché par ces conditions et qu'on se sent submergé émotionnellement lorsqu'on est en colère, seul ou... C'est en fait parce qu'on a envie de faire quelque chose. On se sent en réalité, quand on est dans cette position, dans une de ces trois conditions, ah, il faut que je fasse quelque chose pour changer, pour enlever la tension qui est sur moi, sur ce moment-là, il faut que je fasse quelque chose. Et on a envie de faire ça. Et pas seulement une chose, mais du coup, n'importe quelle chose, même quelque chose de mauvais. Ah, j'arrive pas à avoir assez d'argent en fin de mois pour boucler mon mois. Allez, je vais contracter ce crédit là, revolving, qui va me permettre d'avoir un petit peu de souplesse et puis d'être un peu plus à l'aise financièrement. Et puis au bout d'un moment, on commence à regretter ce choix-là. Comprenez? On fait à l'instinct, on fait ce qui est naturel quand on est dans ces émotions-là. Et les choses, en réalité, quand on rentre dans cette dynamique, c'est que ça ne devient pas plus facile, c'est que ça devient plus compliqué pour notre vie. Ça ne fait qu'engendrer plus de regrets. C'est comme un cycle. Et en général, c'est comme ça. On finit encore plus en colère, encore plus seul, encore plus effrayé. Maintenant, on va aller dans l'histoire de David. David, c'est quelqu'un qui a commis dans sa vie, on s'arrête souvent sur deux erreurs, moi j'en ai plutôt quatre. La première, c'est que vous la connaissez peut-être, c'est qu'il a commis l'adultère, il a vu une femme du haut du toit, il l'a trouvée belle, et lui a dit viens, il a fait son affaire avec elle, et puis ça c'était une faute. Et puis après, quand son mari revient de la guerre, c'était Uri, un soldat, le Hittite, et bien là il s'arrange pour l'envoyer au front et pour le faire tuer. Donc David a fait ça, pardon. Et la deuxième, c'est pas dans l'ordre, mais il a à un moment Dieu lui dit surtout, surtout, ne fais pas un compte du nombre de personnes qui sont avec toi. Et puis David, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à recenser. Et il lance un compte. La troisième chose qu'on sait de la vie de David, qui est plutôt quelque chose de pas réussi, c'est le fait qu'il n'a pas été forcément un très bon père pour ses enfants. On le voit à cause de sa descendance. Et on voit qu'il n'a pas réussi ça. Mais la chose qu'on va regarder maintenant, c'est peut-être quelque chose qui est moins connu dans sa vie, mais qui me semble quand même très tragique. Et c'est un moment où David, il a à peu près 20 ans, 22 ans en fait. Et il se trouve en fait que cette histoire qu'on va lire, ça fait suite à une histoire que vous connaissez peut-être, où David se trouve face à un géant qui s'appelle Goliath. Et en fait, grâce à Dieu, il vainc la personne de Goliath. Et là, d'un coup, il devient un homme super célèbre en Israël. Les gens commencent à écrire des chansons à son sujet. Et il est très réputé. Et il a 15 ans quand ça se passe. Et le roi de l'époque, qui s'appelait Saül, il s'aperçoit en fait que c'est un jeune homme qui a beaucoup de potentiel et qui a beaucoup d'influence et beaucoup de puissance en fait. Puis quand il commence à voir ça, il commence à se dire, oh, ce gars-là, les gens écrivent des chansons à mon sujet, j'en ai vaincu 1 000, David en a vaincu 10 000, et il commence à être un petit peu titillé, si vous voyez ce que je veux dire. Il se dit, c'est moi le roi, quoi. Et puis, ce n'est pas quelqu'un qui est rempli d'assurance en lui, le roi Saül, et c'est quelqu'un qui est jaloux, et aussi quelqu'un qui est facilement en colère. Et du coup, il se dit, oh là, il y a quelque chose qui ne va pas trop, quoi. Et il décide, en fait, de mettre un plan qui aurait pu être un bon plan si David n'était pas qui il était. Et il se dit, bah, plutôt que de lui faire du mal, pour le moment, je vais essayer de le ramener dans ma famille. Parce que s'il est proche de moi, je vais pouvoir mieux le contrôler, ce gars-là. Et il décide de lui donner pour épouse une de ses propres filles, Mériba. Mais le problème, c'est que David, il dit non, je ne suis pas digne d'être le gendre du roi, c'est un trop grand honneur, je ne veux pas, je ne souhaite pas. Alors, il y a quelque temps qui passe, et puis ça devient, la tension, elle commence à monter, et puis David, il faut se rappeler qu'il n'avait que 15 ans à ce moment-là. Et puis, le temps passe, et David en vient, je la fais courte, à tomber amoureux d'une autre fille du roi Saül qui s'appelle Michal. Et du coup, bah, Saül, il est bien content, il se dit, ah ben mon plan, il arrive à effet, et puis David, il va rentrer dans ma famille. Alors, David, il se marie à Michal, et après, en plus, David, il se lie d'une forte amitié avec un fils de Saül qui s'appelle Jonathan. Alors là, c'est bon, David, il est proche de Saül, etc. Et Saül, il est content, il se dit, je vais pouvoir mieux le contrôler. Mais le problème, c'est que Saül, il est rempli de jalousie. Et puis, il se dit, bon, ça ne va pas le faire. Ce que je vais faire, c'est, je vais l'envoyer à la guerre. Je vais l'envoyer en bataille. Et puis, au moins, il va se faire tuer là-bas. Moi, je serai tranquille. Je ne vais pas, moi, le mettre à mort. Mais si je l'envoie, au moins, peut-être les Philistins, peut-être un autre peuple vont le tuer. Alors, il l'envoie à la bataille. Et puis après, il le reprend près de lui. Et puis, il est de nouveau calmé. Et puis après, pendant 7 ans, comme ça, Saül y fait différentes occasions pour essayer de faire tuer David. Vous me suivez jusque-là dans l'histoire? Et David, en fait, en réalité, à chaque fois, il revenait non seulement vivant, mais vainqueur et avec une popularité encore plus grande. Donc tous les plans de Saül, ils étaient mis à mal, quoi. Alors vous imaginez la colère, parce qu'il n'était pas rempli d'assurance, il était rempli de jalousie. Et en fait, tout ça arrive à un moment où Saül il commence à se dire, tiens, en plus, même dans ma famille, il a de l'influence, il a des liens, Jonathan l'écoute beaucoup, ma fille l'aime beaucoup, et puis il le préfère à moi-même, il semble ça, et puis ça, c'est tout ce que se dit Saül. Et puis il arrive à un moment donné, à un dîner, où il explose. Il devient complètement fou, fou de rage. Et le dîner, à ce moment-là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était le repas le plus important de la journée. Quand on était invité à la table du roi, ben, on s'y rendait. Puis David, il avait l'habitude d'y aller. Mais là, depuis quelque temps, il y allait un petit peu moins parce que ben, c'était un peu tendu quoi, avec le beau-père. Et quand il n'était pas là, ben, Jonathan, il était là un petit peu, il le couvrait. « Ah oui, tu sais, il est parti là, ou il est là, etc. » Enfin, il y a toujours un peu une excuse. Mais là, un jour, Saül, il est là à table. Il commence à regarder autour de lui, il ne voit pas David. Il pète un plomb. Franchement, il pète un plomb. On va le lire, vous allez vous dire, mais je ne savais pas qu'il y avait ce genre de verset dans la Bible. Et d'ailleurs, ça me fait dire que des fois, il faut veiller si on met la Bible entre les mains d'enfants. Mais il pète un plomb, complètement. Il est là au dîner et tout, et il s'adresse à son fils, regardez. Il se met en colère contre Jonathan et il lui cria « Fils de chienne, fils de rebelle. » Vous imaginez? Vous dites, attends, fils de chienne, ça veut dire, moi je suis ton père, donc ta mère. Ah, ta mère. Vous vous rendez compte de ce qu'il est en train de dire? C'est quand même plutôt fort. Et en même temps, on espère que cette dame-là, elle n'est pas assise à la table avec eux. Et lui dit, crois-tu que je ne sais pas que tu as pris parti, que tu es de mèche avec le fils de Jessé, le fils d'Isaïe, à ta honte, donc David, à ta honte et à celle de, est-ce qu'elle est là, de ta mère? Peut-être des petits problèmes de mariage aussi chez eux, de couple. Et Saül, là, il est en train de dire, j'en ai marre de prétendre, quoi. Je sais que tout le monde est de mèche contre moi. Le roi, c'est pourtant moi qui suis établi en tant que pouvoir. C'est pas ce petit berger ou ce guerrier-là qui doit m'embêter, etc. Il est complètement fou. Et alors, il arrive, une fois qu'il a dit ça à son fils, qu'il a balancé son truc, il prend la porte et il part. Et là, il dit d'abord à Jonathan, aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera en vie, juste avant qu'il parte, il dit, tu ne pourras pas t'imposer ni établir ta royauté. Il est en train de dire à Jonathan, mais tu te rends compte? Si ce jeune homme-là, tu risques de ne pas être roi après. C'est lui qui va prendre la place. On sait bien que ce n'était pas le problème de Saül, que le problème de Saül, c'était vraiment la jalousie qu'il avait, qu'il s'en foutait en fait, en gros, que ce soit son fils qui soit après lui. Enfin, peut-être qu'il ne s'en foutait pas complètement, mais ce n'était pas son truc le plus important. C'était vraiment qu'il était jaloux. C'est pourquoi fais-le chercher et ordonne qu'on ne l'amène pas sans retard, car il mérite la mort. Alors Jonathan trouve David et il lui dit, il faut absolument que tu quittes la ville. En fait, même le pays, mon père ne trouvera pas de repos avant que tu meures. Il est trop menacé par ta réputation, par ton influence sur la famille, sur le pays. David avait 22 ans à ce moment-là. Et là, d'un coup, il y a un truc qui se passe. David prend peur. David se sent abandonné, il se sent rejeté par les siens, par sa patrie, par son famille. Il y a un sentiment de colère qui monte en lui. Et il prend une décision parce qu'il se sent abandonné, en colère et effrayé. Mais pourquoi est-ce qu'il va prendre la décision qu'on va voir juste après? Ben simplement, parce qu'il a paniqué. Et en réalité, c'est un peu la même chose qu'on fait. Quand on est abandonné, quand on se sent abandonné, quand on est en colère ou quand on est effrayé, qu'est-ce qui nous arrive à nous? Notre premier sentiment charnel, c'est on panique. Alors, David, il décide de prendre les choses en main. Et c'est plutôt dur à imaginer quand on sait toute l'histoire de David et qu'on sait toutes les victoires qu'il a vaincues grâce à Dieu, grâce au nom de l'Éternel. Mais c'est la réalité. On dirait à David, si on était là à côté de lui, on lui dirait, mais pourquoi est-ce que tu pars? Tu ne sais pas que Dieu il est avec toi, pourquoi est-ce que tu prends la fuite? C'est ça qu'on aurait envie de lui dire. Mets ta confiance en Dieu, tu t'en fous qu'ils veulent te mettre à mort, ce n'est pas ça le problème. Et la réalité, c'est que si on regarde à un moment de notre vie, si on s'arrête, on peut aussi nous se poser la question, la même question. Pourquoi est-ce que j'ai pris cette décision-là quand j'étais effrayé, quand j'étais en colère, quand j'avais peur? Pourquoi est-ce que je suis allé là-bas à ce moment-là? Pourquoi est-ce que j'ai rappelé ce gars? Pourquoi est-ce que j'ai dit oui à cette invitation? Pourquoi est-ce que j'ai dépensé cet argent? Pourquoi est-ce que j'ai emprunté cet argent? Pourquoi est-ce que j'ai pris la fuite? Et la réponse, elle est simple. C'est que notre inclinaison naturelle, quand on est dans cette situation, dans cette émotion, c'est de paniquer. C'est ça qu'on va faire naturellement. Et voilà ce qui arrive à David. David, alors, il prend la fuite et il sort du pays, comme lui a proposé Jonathan, et il se rend dans une ville, dans une ville qui s'appelle Nob. Nob, à ce moment-là, c'était l'endroit où il y avait l'Arche de l'Alliance, le tabernacle, c'était l'endroit où il y avait les sacrificateurs. Pourquoi c'était là? En fait, le tabernacle, il allait de lieu en lieu, si vous voulez, dans ce temps-là. C'était un peu la capitale du territoire pour les Israélites. Et il allait de lieu en lieu, pourquoi? Parce que c'était à chaque fois là où il y avait l'endroit le plus sécurisé. Et donc le tabernacle bougeait avec l'Arche de l'Alliance et ça allait de ville en ville. Et là, il se trouve qu'à ce moment-là de l'histoire, le tabernacle, il est à Nob. Et David va se retrouver auprès du grand prêtre qui s'appelle Ahimelech. Et là, donc, David, il arrive, et il arrive près d'Ahimelech. Et puis Ahimelech, il est là, il voit David arriver et il dit, et celui-ci accourut tout tremblant au devant de David, et il lui demanda, comment ça se fait que tu sois seul? Pourquoi n'y a-t-il personne avec toi? Et c'est légitime comme question parce que quand on sait que David, c'est le garde rapproché du roi Saül, quand on sait que David, c'est ce grand guerrier qui a vaincu autant de batailles et que jamais il ne se déplace avec au moins 1000 hommes, vous imaginez le bruit quand ça arrive? Donc Ahimelech, il voit David arriver tout seul, il se pose la question. Il se dit, il y a un truc qui ne va pas, qui cloche, qu'est-ce qui se passe? Et donc il arrive et il court vers David. Et il tremble, il dit, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Et puis là, David, il est seul, il est un peu nerveux, il regarde Ahimelech, il regarde un peu autour de lui, c'est moi qui l'imagine, je le rajoute, pour vous mettre dans l'ambiance. Et il répond à Ahimelech et il lui ment. On va le voir, il ment à Ahimelech. Et David, un juif qui connaît le top 10, tu ne porteras pas de faux témoignages. Tu ne mentiras point. David les connaissait par cœur. Vous ne croyez pas qu'il avait envie et qu'il était conduit pour vivre selon ses valeurs de la foi et qu'il allait obéir à ces choses-là? Et là, parce qu'il est paniqué, qu'est-ce qu'il fait? Il ment. Et pourquoi il ment? Parce qu'il a peur. Et quand tu as peur, que tu es en colère, que tu te sens abandonné, seul, isolé, tu ne fais plus tellement cas des voies de Dieu, des principes de vie selon Dieu. Tu fais un peu à l'instinct. Tu fais un peu comme toi, tu as envie, comme ça te donne un petit peu à libérer ta tension. Pas vrai? Et voici donc ce que David va répondre à Ahimelech. Le roi m'a chargé d'une mission et il m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné. Il essaie juste de se couvrir là, David. Pourquoi? Parce qu'il a peur que s'ils disent la vérité à Ahimelech, Ahimelech ne l'aide pas. Et vous savez quoi? Ce mensonge-là va causer la mort de Ahimelech et de toute sa famille. Et non seulement de Ahimelech, de sa famille, mais de tout un village. La conséquence d'un mensonge. Vous vous rendez compte? On va le voir. Et l'histoire continue. C'est pourquoi... Ah, pardon. Mince. Maintenant, qu'as-tu à manger sous la main ? David demande ça à Ahimélec. Peux-tu me donner 5 pains ou quelque chose ? Alors là, Ahimélec, il est, attends, meilleur soldat, il vient seul, et il vient sans manger, dans une mission secrète. Il dit, ça devient vraiment louche quoi, pour lui. Et donc il lui répond, Ahimélec, le prêtre lui répondit, je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais seulement des pains consacrés. C'était des pains le jour de sabbat. Les prêtres, ils faisaient du pain frais, ils le mettaient sur un autel, dans le tabernacle, c'était consacré à Dieu. Et le lendemain, parce que Dieu, ben, lui, il ne les avait pas mangés, ben, il récupérait les pains et il pouvait les manger. Mais pour ça, il fallait juste être pur. Donc il y avait une cérémonie de lavement, etc. Et c'était seulement ceux qui étaient de cette façon-là, qui pouvait manger le pain. Et David continue de mentir, et Ahimélec lui dit, vas-y, prends les pains. Il lui remet les pains qui sont consacrés. Non seulement David ment pour la raison pour laquelle il se trouve ici, donc auprès d'Ahimélec, mais en plus, il lui ment pour recevoir à manger. Vous vous rendez compte ? Continue dans son truc. Et quand on s'arrête un instant, on doit commencer à se poser la question de il est où ce David qui dit « Je me confie en toi, Dieu ?» Il est où ce David ? Il est où ce David qui dit « Mon espérance est en toi tout le jour, tout le long des jours ?» Il est où ce David qui dit « Dieu, tu es mon refuge et je cours vers toi lorsque viennent les difficultés ?» On doit se poser la question quand c'est ça, quand on en arrive là. Et puis l'histoire, elle devient encore plus intrinsèque, encore plus tragique, encore plus dramatique. Et vraiment, c'est dans ce prochain passage-là que j'espère qu'on va capter quelque chose dans nos cœurs. C'est vraiment ce moment-là que j'aimerais qu'on retienne. Si tu retiens quelque chose de ce message, c'est vraiment ce qui arrive maintenant. Alors David continue dans sa discussion avec Ahimélec et il demande « N'aurais-tu pas une lance ou une épée sous la main ?» La mission du roi était si urgente que je n'ai pas eu le temps d'emporter mon épée ou d'autres armes. Un soldat qui part sans son arme. Vous vous rendez compte, là, Ahimélec, il dit, attendez, c'est vraiment louche, quoi. Ok, je veux bien te croire, hein, parce que t'es quelqu'un de droit. Hein. Mais là, il se pose vraiment beaucoup de questions. Le plus célèbre guerrier qui part en mission secrète sans une arme. C'est dingue. Et c'est là que, si on avait une petite bande de son, j'aimerais qu'il y ait un petit truc sonore, parce que là, il va se passer quelque chose d'assez incroyable. Et vous êtes avec moi dans le film, là, vous me suivez ? Puis là, il y a un petit moment musical et quelque chose qu'on va découvrir. C'est le moment où il y a la clé. C'est le moment où on se dit, ouais, ça y est, David... Il va comprendre ce qui est en train de se passer dans son propre cœur. On se dit, ouah, c'est l'intrigue, le moment palpitant. On se dit, ouah, il y a quelque chose qui va se passer. Et c'est là. Et regardez ce qui se passe. Le prêtre répondit à David. Il y a l'épée de Goliath, le Philistin que tu as vaincu dans la vallée du chêne. La voilà. Et devant les yeux de David, l'épée de Goliath. Et là, on se dit, attends, il y a 7 ans, David. Il y a 7 ans, vous savez où vous étiez il y a 7 ans ? Moi, il y a 7 ans, je me rappelle, je rentrais pour à peu près 7 ans, je rentrais pour la première fois dans ce lieu, ici. Je revenais d'Australie, j'arrivais, il y avait une répétition de louanges, il y avait Bastien, Léa, Claudia et Mathilde, je crois, quelque chose comme ça. Non, c'était même pas Léa, c'était Timothée Johnston, à la batterie. J'arrivais là, il y a 7 ans, on se dit, il y a 7 ans, il doit se rappeler quand même. David face à Goliath. On se dit, c'est quand même dingue. Il devrait être là et se dire, se rappeler, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est pas moi qui ai vaincu ce géant. C'est Dieu qui était avec moi. C'est pas... Cette épée qui m'a aidé à vaincre le géant, c'était les pierres que Dieu m'avait données. J'avais même essayé de mettre l'armure du roi Saül, ça ne passait pas sur moi. C'est parce que Dieu était avec moi que j'ai vaincu. Ça, quand il voit l'épée David, ça devrait tilter chez lui et se dire, mais mon Dieu est avec moi. Et regardez même ce que David, quand il était face à Goliath, il disait, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Qu'est-ce qui est advenu de ce David ? Qu'est-ce qui est advenu de ce guerrier sans crainte ? Qu'est-ce qui est advenu du psalmiste qui écrit « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi ». On peut se poser la question. Il est passé où cet enfant qui avait 15 ans ? Elle est où cette foi en Dieu ? Elle est où cette confiance en Dieu ? Et la réponse, c'est la peur, la colère et la solitude, le sentiment d'abandon. Parce que David était dans cette situation-là, il a oublié ce qui avait passé il y a 7 ans. Ces trois géants-là, ils ont le potentiel de nous faire oublier le vrai géant vaincu dans notre passé. Ces trois géants-là, ils ont le potentiel d'ébranler notre confiance, notre foi en Dieu, basée sur ce que Dieu a fait dans notre vie par le passé. Et il est montré à David visuellement devant ses yeux à ce moment-là de sa vie, un signe puissant de Dieu. Et si Ahimélec connaissait tout le fond du cœur de David et qu'il n'avait pas pris ce mensonge, si Ahimélec comprenait ça, je suis persuadé d'une chose. Je suis persuadé qu'il arrêterait David et lui dirait, attends, là, t'es dans la peur, etc. Rappelle-toi de ça. Rappelle-toi de ton Dieu au milieu de circonstances. Et il lui dirait une chose. Et si tu as gardé de la place pour le titre du message ce matin, c'est la même chose que j'ai envie de te dire ce matin. Ne prends pas l'épée. Ne prends pas l'épée. Ahimélec, il lui dirait, non, ne la prends pas. Rappelle-toi que Dieu est avec toi et retourne direct dans ton pays. Et sois là devant le roi Saül et n'aie crainte de rien, car Dieu est avec toi. C'est ça que Ahimélec lui dirait. Et c'est ça qu'on espère que David, il est en train de capter à ce moment-là. On l'espère. On a envie de se dire, ouais, David fait le bon choix. C'est le moment où l'histoire, elle tourne, elle change. Et Ahimélec lui dit donc, parce que lui, il n'est pas au courant de tout ça, il lui dit, si tu veux, tu peux la prendre, car c'est la seule arme que nous ayons ici. Et là, David, il prend une décision terrible, qu'il va regretter pour le reste de sa vie. Une décision qui va s'inscrire dans le livre de sa vie. Il dit, oui, donne-la-moi. Car c'est la seule arme que nous ayons ici. Donne-la-moi, elle est sans pareil, pardon. Et c'est comme si littéralement, David prenait les choses en main. Comme si littéralement, David disait, ça c'est mon affaire, je vais gérer. Il prend l'épée pour enlever la tension et pour se dire, maintenant je suis armé pour aller au combat. Vous vous rendez compte de ce que ça produit, la colère, toutes ces choses-là ? Je voudrais juste faire une petite parenthèse, parce que je sais que vous êtes en train de vous dire, un pasteur qui a une épée chez lui, c'est pas bien. Elle ne vient pas de moi, je vous le promets, je vous l'assure. Mais les seules personnes qui ont ce genre de choses, ce sont en général des malfrats, des personnes avec qui on ne veut pas être en compagnie, etc. C'est pour ça que je ne lancerai pas et je ne balancerai pas ma source. Merci Jean Arnoldi. Mais là, littéralement, David prend les choses en main. Et ça lui est rappelé par une épée qu'il a utilisée pour la dernière fois il y a 7 ans pour couper la tête de ce géant. La dernière fois. C'était une arme. Puis là, pour le coup, vous pouvez le voir. Vous voyez, elle ne coupe pas vraiment. Mais c'était une mauvaise arme. C'était une arme qui était émoussée. Et David, il était en train de donner une mauvaise réponse. Et le résultat, comme on va le voir, il était désastreux, le résultat de ce qu'il a fait. Et est-ce que nous, on n'est pas parfois dans la même situation, à cause de notre colère, à cause de notre peur, à cause de notre sentiment d'abandon, à choisir une mauvaise arme et donner une mauvaise réponse à la situation, et que cela produit un résultat qui est désastreux? Est-ce qu'on ne fait pas la chose pareil? Mais vous savez, on voit ça facilement. C'est un peu notre histoire, c'est ce que je voulais dire. On voit ça assez facilement chez les autres. On se rend compte quand quelqu'un est en colère ou quand il est prêt à prendre une mauvaise décision, pas vrai? C'est facile en général de se dire, tiens, là, il est en train de prendre une décision sur quelque chose qui n'est pas bon. Mais pour nous, on se dit, ah, c'est plus difficile à le voir. Pourquoi? Parce que nous, on est convaincus que notre situation, ma situation, elle est différente. Ah, tu comprends? Oui, je comprends pour toi. Mais moi, tu comprends, ma situation, elle est encore plus compliquée. Ma situation, elle est différente. On a réussi à se convaincre de ça. Et vous savez ce que David, lui, il a pensé dans ce moment-là? Un peu ce que vous et moi, on peut penser quand on est troublé, quand on est paniqué par un moment et qu'on est dans cette situation-là. On se dit, si Dieu était vraiment avec moi, ça ne m'arriverait pas. Pas vrai? C'est pas les choses, les questions qu'on se pose. On se dit. Et quand on chemine avec Dieu, on arrive à un moment où, si on suit le Seigneur pendant un temps, on peut se rendre compte d'une réalité qui est vraie. Il est facile de faire confiance à Dieu lorsqu'on n'a rien à lui confier, ou alors aucun besoin. C'est facile, hein? Quand tu as 15 ans ou 12 ans, tu vas en camp, tu vis un super moment, « Ah Seigneur, prends toute ma vie !» Attends, mais tu rentres chez toi, tu arrives dans ta chambre, « Prends toute ma vie !» Alors c'est mes Lego, c'est pas ma voiture parce que c'est la voiture de mes parents, c'est mon lit, tu peux le prendre, mais je serai un peu en galère pour dormir, mais c'est pas grave, tu peux le prendre. On n'a pas grand-chose à donner à ce moment-là, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un peu facile dans ces conditions-là. La réalité, c'est que c'est beaucoup plus difficile quand on a des choses à lui confier. Quand tout va bien, en fait, c'est même facile de venir à l'église, de chanter des chants de louange. Quand tout va bien, c'est facile de servir à l'église. Quand tout va bien, c'est facile de prier et de faire confiance à Dieu pour ses amis qui traversent des périodes délicates. C'est facile de faire confiance à Dieu lorsque l'on n'a rien à lui confier ou encore ou aucun sujet pour lequel on a besoin de lui faire confiance. Mais c'est plus difficile quand nos vies elles commencent à tomber en morceaux, quand les choses qui ont de l'importance, les choses qui ont de la valeur pour nous, elles commencent à s'éloigner, à s'effriter. Une relation, un travail, notre santé ou celle d'un proche, quand ces choses-là commencent à s'effriter, c'est plus difficile. On commence à paniquer, on commence à avoir les mêmes sentiments, à se demander où est-ce qu'il est Dieu dans tout ça. Et on peut rire de David et critiquer quand on voit ce qu'il s'apprête à faire juste après avoir pris l'épée. Mais parfois, on fait un peu pareil. Et si on reprend l'histoire de David, il va faire un truc encore plus fou. David, il se lève, il prend l'épée, donc, et il s'enfuit. Mais il s'enfuit où? Loin de Saül. Bon, ok, ça dans la logique qu'il a suivie. Et il se rendit chez Achish. Vous savez qui c'est Achish? Le roi de Gath, c'est écrit juste après. Mais vous savez où ça se trouve, Gath? Chez les Philistins. Et vous savez qui est de Gath? Goliath. Il part avec l'arme de Goliath, enfin celle avec laquelle il a coupé la tête de Goliath. Il part avec cette arme, il s'enfuit de son problème pour aller dans un endroit où il espère que ça va aller mieux, chez le roi des Philistins. Attendez, vous croyez qu'ils n'ont pas reconnu l'arme de Goliath? Vous vous rendez compte, c'est quoi ce genre de décision? On rigole, mais des fois on fait le même genre d'absurdité. Et il arrive là-bas, et bien sûr, il essaye d'expliquer Oui, je vais me battre maintenant avec vous contre mon propre peuple. C'est ce qu'il essaye de faire pour trouver un refuge auprès de ses ennemis, du peuple ennemi d'Israël. Et puis, les gars, ils commencent à regarder David et ils se disent, mais attends, c'est lui qui a tué Goliath. Il est pas un peu fou? Il croit vraiment qu'on va croire à son truc. Il vient certainement plus comme un espion, etc. Donc, c'est les pensées qui peuvent leur arriver. Et puis là, David, il commence à se rendre compte, oula, je suis encore plus en danger ici. Alors, qu'est-ce qu'il fait, David? Ben, il fait le fou. Il commence à venir et à faire gratter les portes. Il y a de la bave qui commence à lui faire truc. Et il fait le fou devant le roi, etc. Et le roi, qu'est-ce qu'il dit? Ben, attendez, j'ai assez de fous ici. Arrangez-vous pour qu'il s'en aille. Et du coup, là, David s'en va. Attendez, voilà. Je vous l'ai fait courte, là. Pardon. Je me suis perdu. Voilà. Et David s'en va. Et David s'en va. Pardon. Et il va vivre dans une caverne, du coup. Et il va vivre dans une caverne non loin. Et là, sa famille, les membres de sa famille viennent le rejoindre. Et d'un coup, il commence à revenir sur ses sens, David. Il y a un prophète qui vient et qui dit à David, écoute, David, il faut que tu retournes dans ton pays, là, en Juda. Il faut que tu retournes là-bas. Et David comprend que c'est le moment pour retourner dans son pays. Mais le problème, c'est que le moment où David réalise tout ce qui s'est passé et que c'était le moment de faire confiance à Dieu, de retourner dans le pays, c'était déjà trop tard. C'était déjà trop tard, le mal était déjà fait. Quand David a rencontré Ahimélec, il n'y avait pas juste David et Ahimélec. Il y avait aussi un gars qui s'appelle Doeg, qui était là au même moment et qui était là un petit peu plus loin et puis qui avait vu la scène se passer. Et un jour, il y a Saül qui arrive auprès de Ahimélec et voici ce que Doeg dit à Saül. Celui-ci, Ahimélec, a consulté l'Éternel pour David et lui a fourni des vivres. Il lui a aussi remis l'épée de Goliath, le Philistin. Dis la vérité, hein, si tu vois de loin, c'est ce que tu peux imaginer. Il n'avait pas compris tout ce qui s'était dessiné en fond. Et donc, ce qu'il est en train de se dire, Saül, c'est ce gars-là, Ahimélec, lui aussi, il est de mèche avec mon ennemi juré, David. Le roi, il est furieux. Et il se dit, non seulement ma fille, mon fils, toute ma famille sont de mèche avec lui, mais même les sacrificateurs. Alors, regardez ce qu'il décide. Alors, le roi envoya chercher le prêtre Ahimélec, ainsi que tous les prêtres, membres de son groupe familial qui étaient à Nob. Tous vinrent se présenter devant le roi. « Écoute bien, lui dit Saül, quand celui-ci fut devant lui, « Oui, mon Seigneur, j'écoute, lui répondit-il. Pourquoi avez-vous comploté contre moi ? Toi et le fils d'Isaïe, lui dit Saül, tu lui as donné du pain à manger, une arme, et tu as consulté Dieu pour lui, pour qu'il se révolte contre moi et me tende des pièges comme c'est le cas aujourd'hui. » Et là, Ahimélec, il comprend rien, lui. Parce qu'il n'a pas capté que David lui avait menti. Il se dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc de fou, là. Et il lui répond ça. Y a-t-il parmi tous tes fonctionnaires quelqu'un d'aussi fidèle que David? De plus, c'est le gendre du roi, et n'est-il pas le chef de ta garde personnelle? N'est-il pas hautement honoré à la cour royale? Qu'est-ce que tu me racontes, Saül? Et si j'ai consulté Dieu pour lui, était-ce la première fois? Il avait l'habitude de venir vers moi pour que je consulte Dieu pour lui. Je n'ai jamais eu l'idée de comploter contre toi. Que le roi ne mette pas sur mon compte ni sur celui d'aucun membre de mon groupe familial une telle chose, car ton serviteur ignorait absolument tout de cette affaire. Mais le roi, c'est un parano. Il avait peur pour son règne, il était jaloux et il décide donc de mettre à mort Ahimélec. Ahimélec, tu mourras. Toi et tout ton groupe familial, c'est décidé. Et alors il ordonne à ses gardes qui se tenaient près de lui, allez, mettez à mort ces prêtres de l'Éternel parce que eux aussi ont soutenu David. Mais là, les serviteurs du roi, ils se disent, attends, On veut bien tuer tes ennemis, on veut bien tuer les méchants, mais quand même des sacrificateurs là, des gens qui sont là pour Dieu, non, nous on ne le fait pas. C'est l'opportunité que Doeg, là, celui qui avait vu de loin, il se dit, ah tiens, je vais me faire ami avec le roi, copain, copain, bah, si eux ne le font pas, moi je veux bien le faire. Et donc, Doeg, il arrive, il fait son business, et non seulement il tue Ahimelech, il tue 85 prêtres ce jour-là, et après, regardez ce que le roi fait dans sa colère, ce qu'il demande. Saül fut aussi massacré par l'épée. Tous les autres habitants de Nob, la ville des prêtres, tous y passèrent. Hommes, femmes, enfants, nourrissons, bœufs, ânes, brebis. Vous imaginez un mensonge à la base de ça. Un mensonge basé sur quoi? Sur la peur, sur la colère, sur le fait de se sentir seul, abandonné, rejeté. Et très peu de personnes ont échappé à ce massacre. Un des fils d'Ahimelech, lui, il y a échappé. Il parvient à s'enfuir, il trouve David et lui raconte toute l'histoire. Et là, David est brisé. Et voici ce qu'il répond, David. Il dit, c'est donc moi qui suis la cause de la mort de toutes les personnes de ton groupe familial. C'est pas Doeg. C'est pas Saül. C'est moi. C'est moi qui suis responsable. Je suis responsable. Vous vous rendez compte? Responsable de la mort de tout un village. Parlez-moi de regrets dans votre vie. Prendre les choses en main, prendre l'épée, décider d'enlever la tension pour nous-mêmes, ça peut nous faire du bien à nos âmes dans un premier temps. Mais la réalité, c'est que ça porte toujours des conséquences qui peuvent être désastreuses, comme celles qu'on vient de voir. Et alors qu'on approche la conclusion, je vais demander à l'équipe de louange si elle veut bien me rejoindre. J'aimerais nous laisser deux, trois questions à partir de cette histoire qu'on a vue ensemble. Il y a des moments dans notre vie où la colère, elle nous pousse à faire les mauvais choix. Où le sentiment de solitude ou d'être seul face à une situation, elle nous pousse à faire des mauvais choix. Des moments comme David où on a peur pour nos vies, où ça nous pousse à faire des mauvais choix. Et ces émotions, elles sont si fortes en nous qu'elles créent la panique. Et du coup, on se pose ces questions-là. Et c'est une question que je voudrais te laisser pour toi. Qu'est-ce que ta solitude, ta colère, solitude, sentiment de rejet, d'abandon, tu mets ce que tu veux là, ta colère, ta peur, ta crainte te poussent à considérer que tu n'aurais jamais considéré auparavant. Je veux dire, dans tes relations, dans tes finances, physiquement. Un risque, en fait, que tu serais prêt à prendre. Ou peut-être une vieille habitude pour laquelle tu as passé des heures, des semaines, des mois, peut-être même des années pour essayer de t'en séparer, peut-être des centaines d'euros, des milliers d'euros pour essayer de te séparer d'une mauvaise habitude. Et là, juste parce que tu es dans ce sentiment-là, dans cette émotion-là, tu t'apprêtes à y retourner. La deuxième question que j'aimerais te poser, c'est qui est-ce que ta solitude, ta colère ou ta peur te pousse à considérer que tu sais que tu ne devrais pas considérer? Ce vieil ami sur Facebook, ça fait longtemps que mon mari m'a pas dit je t'aime, mais ce mec-là, il vient près de moi, il me demande des nouvelles, peut-être ça. Ou alors, toutes les publicités qu'on reçoit, ce serait tellement bien d'avoir un petit peu un seuil financier qui m'aide et un crédit Cofinoga, peu importe, 25%, ça ne me dérange pas, ça va me faire du bien. Qui est-ce que ta solitude, ta colère ou ta peur te pousse à considérer? Quel mauvais choix se cache derrière ça? Et la dernière question, qui est pour moi la plus importante. Qui, à tes côtés, est mis en danger par tes considérations? Qui est-ce qui prend un risque en étant à côté de toi? Parce que quand tu es en colère, quand tu es dans la crainte, quand tu te sens rejeté, abandonné, tu prends la mauvaise décision. Ahimelech, il n'avait rien demandé. Il n'avait fait aucun mal. il n'avait aucune raison d'être mis à mort. Qui est-ce que dans ton environnement, dans ton entourage, risque ça? Et tu sais quoi, j'ai la réponse pour toi. Ceux que tu aimes. Et aussi ceux qui t'aiment. Les amis, vous le savez aussi parce que certains d'entre nous ont grandi avec un père dont la colère était incontrôlable. Et en tant que fils ou en tant que fille, tu as dû faire avec depuis, et c'est encore en toi. Pour d'autres, c'est la dépression d'une amie face à laquelle tu t'es sentie seule et impuissante. Pour l'autre, c'est un emprunt ou un deuxième petit boulot que tu as pris parce que tu n'arrivais pas à joindre les deux bouts, ou ton père a pris, ou ta mère a pris, et le résultat, c'est que tu ne connais pas ton père, tu ne connais pas ta mère, et tu t'apprêtes à faire la même chose parce que tu as peur. Et le risque, c'est que plus tard dans ta vie, tu regrettes parce que tu n'as pas le temps, tu n'as pas eu de temps pour tes enfants, parce que tu as valorisé l'argent, le fait d'être en sécurité financière, plus que des choses qui étaient plus importantes à la base. Parce que quand tu es devenu papa, quand tu es devenu maman, tu t'es dit, ça, c'est le joyau, pour ça je vais consacrer. Mais plus tard, la panique est venue et tu as pris des mauvaises décisions. Est-ce qu'on n'est pas tous sujets à ça? Les amis, faisons pas comme David, ne prenons pas l'épée, ne prenons pas les choses en nos propres mains, mais faisons confiance à Dieu. Rappelons-nous des géants qu'on a déjà vaincus. Rappelle-toi de ce moment où c'était difficile, mais tu as choisi de trouver refuge en Dieu et où tu as vu Dieu à l'œuvre et où tu as eu une victoire, pas en faisant selon tes propres moyens, mais en laissant Dieu régner. Souviens-toi de ce moment où tu étais face à Goliath, où il y avait peut-être des milliers de personnes autour de toi. Tu étais seul face à lui, mais tu t'es mis à genoux et tu as demandé à Dieu son aide et il est intervenu. Que ça soit un fondement pour tes choix. Que ça ne soit pas la panique, la crainte, la solitude. Que ça ne soit pas ces choses-là qui te guident. Et vous savez, le conseil que David va donner, pas à 20 ans, pas quand il a 22 ans, mais quand il a 50 ans plus tard, il va dire ceci. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé. L'Éternel, pas un médicament, pas l'alcool, pas un autre homme ou une autre femme, pas les dettes, pas une nouvelle voiture, pas une autre église, pas une autre maison, pas m'enfuir dans un autre pays ou tout ce que tu pourrais lister. L'Éternel est mon refuge. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge, dans d'autres versions on dit une tour forte, au temps de la détresse. Une tour forte, c'est quand il y a le combat. Quand il y a le combat, on cherche un endroit où on est en sécurité. C'est ce qu'il est, l'Éternel. C'est à Dieu qu'on doit courir lorsqu'on se sent oppressé. Et David, vous savez, s'il était là avec nous, il nous dirait, j'ai essayé de prendre le contrôle de ma vie quand cela semblait difficile, mais le résultat a été un désastre. Et il nous dirait, mais ceux qui connaissent le nom du Seigneur se confie en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te recherchent. C'est la réalité. Avec Dieu, on n'est pas abandonné. Avec Dieu, on peut trouver un vrai refuge. On peut paniquer. On peut arriver ces moments là où on se sent seul, où on se sent en colère, où on se sent effrayé. Mais avec Dieu, on n'est pas seul. Il ne nous abandonne pas réellement. Et David nous le dirait. Dans ta situation, peut-être tu es en train de dire « Mais mince, il prêche pour moi ce matin. » La réalité, c'est que ça nous parle à tous. Et si ça ne te parle pas aujourd'hui, ça te parlera demain parce que tu auras une situation. Je ne le proclame pas, c'est juste une réalité. Mais tu auras une situation où tu vas te retrouver paniqué et où tu seras tenté de faire un mauvais choix. Mais l'Éternel est une tour forte, un refuge. C'est à lui qu'il faut courir. David nous le dirait parce qu'il a vu les conséquences désastreuses qui sont passées après sur sa vie. Tu ne veux pas ça pour ta vie. Est-ce que vous voulez vous lever simplement avec moi, là où vous êtes? Et vous savez ce qui est beau aussi, c'est de se rendre compte que dans la cité de David, un peu plus de 1000 ans après, le plus célèbre des descendants de David, Jésus-Christ, il dit quelque chose de merveilleux. Il dit ceci: venez à moi. Il parle aux gens qui sont autour de lui. Venez à moi. Il prend la condition de refuge. Venez à moi. Il prend la condition de Dieu. Il dit: venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, si tu es dans la peine, si tu as perdu tout courage, si tu es dans la peur, si tu es dans ces situations, Jésus te dit: venez à moi. Viens à moi si tu es dans cette situation. Ne va pas vers une autre palliatif. Ne va pas vers prendre une décision que tu vas regretter plus tard. Mais viens à moi si tu es fatigué et chargé. Et regarde, et je vous donnerai du repos. N'est-ce pas ce que tu cherches quand tu es paniqué? N'est-ce pas du repos pour ton âme? C'est ça que Jésus est venu apporter. Jésus veut te donner ce repos. Est-ce que tu es prêt à le recevoir? Est-ce que tu es prêt à choisir Jésus pour ton refuge? Ne prends pas les armes, ne prends pas l'épée, ne prends pas les choses entre tes mains. Mais va vers le refuge, celui qui est la tour forte. Va vers Jésus-Christ quand ça va mal. Ne panique pas, mais trouve en lui ton refuge, ton abri. Et tu te dis, c'est peut-être beau, c'est pour toi parce que tu connais déjà Dieu, c'est peut-être pour lui. Crois-moi, c'est accessible pour chacun. Jésus est là pour toi. Il veut que tu expérimentes ce repos pour ton âme. Il désire ça plus que tout pour toi. Si tu es dans ces situations, il te suffit d'un pas, d'accepter Jésus comme Seigneur de ta vie, d'accepter de dire: oh, j'abandonne tout, je te laisse tout, sois le maître de ma vie. Et si tu l'entends ce matin, Jésus est en train de toquer à ta porte. Il est en train de te dire: ne continue pas dans tes mauvais choix. Ne continue pas là où tu es. Laisse les armes. Laisse l'arme de la colère. Arrête avec les peurs. Je suis là, je veux te donner du repos pour ton âme. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à l'accepter ce matin? Est-ce que tu es prêt à lui dire: j'ai besoin de toi? On va prendre ce chant qui dit que tu ne m'abandonneras jamais, parce que c'est une réalité. C'est une réalité pour nous aujourd'hui, c'est une réalité pour toi aujourd'hui. Alors on va confesser, alors que le groupe de louanges commence à chanter, j'aimerais que chacun puisse confesser ces mots. Est-ce que je peux demander à tout le monde d'avoir simplement pour un instant les yeux fermés peut-être, et peut-être d'incliner vos têtes? J'aimerais juste donner cette invitation à quelques-uns ici. Peut-être tu n'as jamais vu Dieu comme un refuge possible. Peut-être que tu n'as jamais compris que Jésus était ce refuge vivant pour toi aujourd'hui. Mais maintenant tu l'as compris qu'il était la solution dont tu as besoin dans ta vie. Tout ce qu'il te demande, c'est de laisser le passé derrière toi, de lui dire pardon pour ce passé, parce que peut-être tu as déjà pris ses choix, peut-être que tu regrettes déjà certains de ses choix. Mais Dieu veut te dire: avec moi tu peux avoir un nouveau futur, tu peux avoir ton passé complètement effacé, et je veux te donner un nouveau futur. Et si c'est toi ce matin, j'aimerais juste te donner l'opportunité de faire cette décision et de demander à Dieu d'être le Seigneur de ta vie. Alors je vais simplement compter jusqu'à 3. Et si c'est toi, tu pourras simplement lever la main là où tu es, et ensemble on priera juste après. Alors est-ce que tu es prêt? 1. Tu entends l'appel du Seigneur pour ta vie. 2. Il veut vraiment être ton meilleur ami. Il veut non seulement être ton Seigneur, ton maître, mais il veut être ton meilleur ami, ton conseiller. Il veut être là avec toi tous les jours pour t'aider à ne pas prendre les choix que tu pourrais regretter. Si c'est toi, 3. Lève ta main là où tu es. Si c'est toi qui veux accepter Dieu dans ta vie, lève ta main là où tu es. Amen. Merci Seigneur. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans ce lieu? Amen. 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 On va tous prier ensemble. Vous pouvez baisser votre main maintenant si vous voulez. On va tous prier ensemble et je vous invite à répéter après moi. Seigneur, merci. Merci pour ta vie. Merci de t'être donné pour moi librement. J'ai tellement de valeur à tes yeux que tu t'es donné. Tu t'es sacrifié. Tu as donné ta vie pour moi. Je t'en remercie. Seigneur, en retour, je t'offre la mienne. Je te dis pardon pour mon passé, mes mauvais choix, mais merci pour le nouveau futur brillant que j'ai en toi. Et pour ça, je te remercie. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir ensemble ce que le Seigneur a fait ce matin ? Amen.